France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Lorsque je suis arrivé à mon tour en mission en France dans la nuit qui a précédé le débarquement, la nuit du 5 au 6 juin 1944, je pensais à Cavaillès plus peut-être qu'à aucun autre. Naturellement, j'ignorais à ce moment-là que je ne le reverrais jamais, Jean Cavaillès, mais je sais que si le débarquement a réussi, c'est parce que des hommes comme lui ont consacré ce qu'ils savaient être leur vie, car il avait en réalité peu d'espoir de s'en tirer, à la victoire.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Il arrive qu'admirer fasse du bien. Nous allons traiter ce matin du destin d'un homme dont Raymond Aron, qui fut son condisciple à l'école normale, a salué en ces termes le sacrifice dans la résistance, l'autorité morale de l'étudiant était devenue le rayonnement du héros. Honorer la mémoire de Jean Cavaillès, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ce sera d'abord rendre justice à un chef essentiel du combat contre l'occupant nazi. Un chef qui n'a pas atteint la gloire posthume d'un Jean Moulin ou d'un Pierre Brossolette, tous deux au Panthéon. Ce sera s'enquérir des causes de cette inégalité parmi tous les aléas de la mémoire collective. Une question qui est au cœur du livre que mon invité, Alia Aglan, a organisé naguère en collaboration avec Jean-Pierre Azéma et d'autres historiens. Le titre en est simple. Jean Cavaillès, résistant. Mais le sous-titre attire l'attention. La pensée en acte. L'ouvrage, en effet, est parcouru par une interrogation. Existe-t-il une spécificité des intellectuels dans une révolte armée? Avec ici, de surcroît, une coloration particulière, puisqu'il s'agit d'un logicien dont la réflexion s'inscrivait à la rencontre de la philosophie et des mathématiques. Il s'y adjoint une composante originale et digne d'analyse dans le cas d'une personnalité qui fut profondément marquée par la culture protestante, au fondement de son refus de la servitude. Ajoutez enfin que les formes, les procédés, les périls de la résistance à un envahisseur ont malheureusement peu de chances de perdre sur notre planète de leur actualité et de leur enseignement. C'est un sujet auquel, dans le cas de la France sous l'occupation, Alia Aglan, professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, a consacré des ouvrages importants au cœur d'une compétence qui s'élargit à l'histoire entière de la Seconde Guerre mondiale et je me réjouis de l'accueillir à ce micro. Et d'abord le regard de Georges Canguilhem, un philosophe qui fut le camarade d'école de Jean Cavaillès et qui est un de ceux qui lui a le mieux rendu hommage.
On peut comprendre que Cavaillès a été résistant par logique. Et pour qui l'a connue, elle n'est pas imaginaire. Le nazisme était inacceptable dans la mesure où il était la négation, sauvage plutôt que savante, de l'universalité de l'esprit, dans la mesure où il annonçait et où il recherchait la fin de la philosophie rationnelle. La lutte contre l'inacceptable était donc inéluctable. Et par lutte, il ne faut pas entendre l'indignation chuchotée dans les couloirs, le porte-à-porte patriotique, l'alimentation des boîtes aux lettres en tract vengeur. Par lutte, il faut entendre le combat, les armes à la main. Voilà donc un intellectuel qui, sans contrainte de situation personnelle, par choix totalement libre, se fait chef de réseau, d'abord et toujours payant de sa personne. Chef d'agent de renseignement, de plastiqueur, de saboteur, un chef exécutant, un philosophe terroriste, voilà Cavaillès. C'est une figure unique, un philosophe mathématicien bourré d'explosifs, un lucide téméraire, un résolu sans optimisme. Si ce n'est pas là un héros, qu'est-ce qu'un héros ?
Alia Aglan, bonjour.
Bonjour Jean-Noël.
Vous le trouvez dans ce texte, dans cet hommage, votre Jean Cavaillès ?
Oui, avec une chronologie un petit peu dispersée. Mais c'est un Jean Cavaillès qui n'a pas tant choisi toutes ses formes d'action, qui a un peu suivi le cours des événements. Et je pense que Jean Cavaillès ne se serait pas aimé statufier en héros.
Alors nous essaierons de ne pas le faire, mais ce sera difficile, car ce destin est vraiment prodigieux.
Le personnage est impressionnant.
Quand Guilhem, quelque part ailleurs, dit d'ordinaire, pour un philosophe, entreprendre d'écrire une morale, c'est se préparer à mourir dans son lit. Il n'est pas mort dans son lit.
Bien sûr, mais on parle de Cavaillès comme de quelqu'un qui aurait été prédestiné à devenir saboteur. En réalité, sa trajectoire n'est pas si logique que ça. Le geste d'entrer en résistance a une certaine logique par rapport à son milieu et sa culture et sa connaissance du nazisme, tout simplement. Mais sa trajectoire, elle est un peu contre-intuitive. C'est-à-dire qu'il aurait dû monter dans la hiérarchie clandestine. Et en fait, il a préféré se retirer. Et moi, j'aime bien l'hommage que lui rend, après la guerre, Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui dit, finalement, ce professeur de logique avait la véritable fantaisie qu'est l'indépendance. Ensuite, il ajoute, monté à Paris, il devait tomber sur une bande de braves gens résistants, mais pieds plats et madrés comme des notaires. Il n'a pas voulu s'incruster dans cette compagnie, et donc il a préféré, avec quelques copains, aller faire sauter des trains, des usines et des transformateurs. Alors évidemment, c'est encore très schématique, mais le mouvement de la clandestinité de Jean Cavaillès s'est passé par tous les stades que connaît la résistance parce qu'elle épouse le temps de la guerre.
Et dans le même temps, nous allons avoir à regarder de plus près plusieurs des thèmes qu'évoque Quand Guilhem, c'est-à-dire le rôle du protestantisme, par exemple, dans sa formation, c'est-à-dire la question du rapport entre la pensée et l'acte.
Dans sa tradition protestante, je crois qu'il faut retenir le fait qu'il n'y a justement aucune rupture entre la pensée et l'action, puisque la pratique et la foi protestante ont ceci de particulier qu'on a à rendre des comptes de toutes ses actions. Donc il y a une forme d'immédiateté, d'authenticité. Sa sœur, Gabrielle Ferrière, raconte aussi qu'il est très œcuménique. Dans son engagement politique, il y a quand même deux piliers. On va dire les idées socialistes ou socialisantes. Et il y a aussi ce rapport à la liturgie catholique et que l'action, en réalité, est chrétienne.
Il faut par conséquent que nous évoquions, pour commencer, Alia Aglan, le milieu nourricier, comme vous dites. C'est-à-dire l'origine familiale qui a beaucoup compté, comme toujours.
Oui, ça c'est un très beau travail qui a été fait par la regrettée Nicole Racine, qui avait travaillé énormément, qui avait rencontré Gabrielle Ferrière et qui a fait un très très beau chapitre complètement inédit sur la jeunesse ou les années d'apprentissage de Jean Cavaillès. La famille, c'est une lignée de militaires et c'est visiblement une famille très unie et peut-être unie parce qu'il y a eu un enfant qui a été perdu, un jeune frère qui n'a pas survécu.
Le père est à la fois un officier et un intellectuel, professeur de géographie.
Oui, mais c'est parce qu'en fait il a été gravement malade, il n'a pas pu combattre.
Donc c'est une enfance qui est ballottée de ville en ville, comme toujours pour les enfants des militaires.
Oui, c'est ce qui fait d'ailleurs que Cavaillès va passer le concours d'entrée à Normale Sup en candidat libre, parce qu'il ne va pas supporter les classes de Louis le Grand. En tous les cas, il ne va pas y rester très longtemps. Oui, une autonomie de pensée, une autonomie intellectuelle, une foi qui n'a pas besoin de manifestations extraordinaires, mais qui est très intérieure. Et puis son rapport à la musique qu'il partage avec sa sœur. Et ça, évidemment, ça donne une fratrie très, très soudée, jusque dans le combat clandestin.
Mais restons dans le moment de sa jeunesse. Vous parlez de l'école normale. Comment est-il conduit dans cette direction ? Parce qu'il est au fond à la fois philosophe et mathématicien.
Mais en fait, il n'a jamais renoncé ni à l'un ni à l'autre. Il a mené de front des études de philosophie et des études de mathématiques. Et d'ailleurs, il va rejoindre ce groupe Bourbaki, qui est l'école française de philosophie des mathématiques, dont il va devenir un des plus importants piliers, avec son ami Albert Lotman, d'ailleurs.
Qui lui-même est mort tragiquement.
Exactement, résistant, fusillé.
Mais restons un instant à l'école normale. Il fait partie de cette rue d'Ulm, le cloître de la rue d'Ulm, comme avait dit Romain Rolland dans le journal antérieur d'une quarantaine d'années. Ce cloître de la rue d'Ulm, qui est un peu moins cloître qu'avant, mais qui l'est plus qu'aujourd'hui. Et il rencontre une pléiade de camarades de bonne qualité. Et il leur est à la fois sympathique et un peu distant, d'après tous les témoignages. Je vois ce que dit Georges Gusdorf, par exemple, qui a été un de ses agrégatifs, et qui écrit de lui, à l'école normale, « Je revois son costume noir, ses cheveux blonds légèrement bouclés, son sourire léger, un peu triste, et cet air absorbé, qu'il portait toujours sur le visage. Il était sans doute fort simple au fond, mais par-delà toutes sortes de réserves et de solitudes, par-delà des déserts où personne ne passe, d'une simplicité cachée, d'une bonté cachée, je l'entends encore me dire « J'aime bien l'école parce que c'est le seul endroit au monde où je puisse rester 3 semaines sans dire un mot à qui que ce soit et sans que personne ne m'en veuille. »
Il s'est quand même lié avec des camarades plus jeunes que lui, notamment Jean Gosset, et surtout Albert Lotman, avec lequel il a vraiment des échanges de philosophie des mathématiques. Ensuite, évidemment, il a croisé Raymond Aron. Enfin, c'est un milieu, là, intellectuellement nourricier, et qui va ensuite jouer un rôle, justement, dans la recherche et les solidarités, les interventions pour le faire libérer quand il sera arrêté. Ça viendra de l'école normale supérieure.
Ce témoin parle de sa solitude. Est-ce que c'est un point qui vous a frappé? Sa tendance, sa tentation de la solitude?
Mais bien sûr, parce que dans la résistance, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'arrive pas à être de plein pied avec les syndicalistes de Libération Nord. Et pourtant, ce mouvement qu'il va intégrer très naturellement, et je dirais il l'intègre à la tête, hein, c'est-à-dire dans le comité directeur, il n'arrivera pas à se lier avec ces syndicalistes. Et c'est vrai que son repli sur l'action immédiate, c'est une forme de solitude aussi dans l'action clandestine.
À vous entendre, on se demande parfois s'il a de l'humour. Et pourtant, des témoignages vont dans ce sens, puisqu'il participe au canular de l'école normale, qui n'était pas encore décevée. Et une sorte de société secrète où il figure sous le nom, je vous ai bien lu, de Hégésippe Laconismus. C'est une allusion à la figure imaginaire d'Hégésippe Simon au cœur d'un canular qui avait précédé la Grande Guerre.
Bah oui, on est déjà dans la tradition de l'école qui fait des gens à la fois très très sérieux et qui sont capables de des pires canulars autour du bassin des Ernestes. Ça c'est des traditions qui sont encore assez vivantes aujourd'hui. Hein.
Quand on s'interroge comme nous le faisons sur les liens entre la pensée et l'action, c'est au cœur de votre interrogation, Alia Aglan, on doit considérer ses premières années d'engagement dans les années 30 au moment de la montée du nazisme, puisqu'il est très attaché d'abord à la réconciliation franco-allemande et ensuite très curieux de la civilisation germanique. Il va souvent outre-Rhin.
Il est de cette génération persuadée que le pacifisme va construire des ponts, et notamment intellectuels, avec les intellectuels allemands. Donc il va se rendre 2 fois à Davos, il apprend l'allemand.
Davos, où on s'organise des rencontres intellectuelles.
Oui, je crois qu'il assiste à un débat entre Cassirer et Heidegger, si je me souviens bien.
Ce n'est pas le Davos d'aujourd'hui.
Ce n'est pas le Davos d'aujourd'hui, mais en tous les cas, oui, il est boursier, il va séjourner en Allemagne. L'Allemagne avant de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, mais donc il sait très bien ce que c'est que le nazisme. Et comme chrétien, il ne peut absolument pas souscrire à une doctrine qui est antichrétienne, et c'est parce que le nazisme est un néopaganisme. Et là où il est vraiment dans sa génération, c'est que ce sont des pacifistes, mais qui font quand même leur préparation militaire supérieure, alors qu'à l'école normale, il y avait des pétitions contre, hein, mais lui et Lotman font quand même ce qu'on appelle la PMS.
Ça s'appelle aussi le bon Wust, du nom du premier capitaine qui, avant 14, avait organisé cette préparation militaire.
Voilà, donc il va pas se désolidariser de ses amis, parce qu'il est profondément pacifiste, mais ensuite, dans ses échanges avec Lotman, ils savent que si la Société des Nations ne réussit pas à faire, d'une certaine manière, école dans l'Europe, il y aura la guerre.
Donc, dans l'esprit de Locarno, qui était voilà. Celui de la réconciliation espérée.
Et du briandisme, évidemment, et du pacte Briand-Kellogg. Donc tout ça, ils y ont cru. Mais je crois qu'il y a une rupture à propos de l'Espagne. Et il écrit d'ailleurs dans une lettre à Lautmann que la guerre d'Espagne aurait dû être la guerre de leur génération, qu'ils auraient dû s'engager et qu'ils ne l'ont pas fait. Donc ensuite, je pense que la résistance ne peut se comprendre que par rapport à l'engagement auprès de la République espagnole. Ils ne se sont pas portés volontaires. Mais ils étaient absolument persuadés qu'il fallait faire la guerre. Et dès 1939, voilà, ils ne se sont pas dérobés à ce devoir.
Mais dans ces années 30, vous montrez bien qu'ils s'intéressent surtout à la résistance des milieux protestants dont ils parlent dans plusieurs articles.
Bien sûr. Parce que je pense que les protestants...
En Allemagne, je veux dire.
Mais Karl Barth, notamment, a été l'une des grandes voix protestantes de la résistance en termes de doctrine. Et il a inspiré toute une résistance protestante. Mais pour Cavaillès, moi, j'insisterais sur le côté œcuménique du combat, qui est aussi très particulier dans les années 30. Cette recherche, finalement, d'une synthèse entre des extrêmes, qu'on voit très bien dans le personnalisme et la revue Esprit. Jean Gosset est proche, par exemple, d'Emmanuel Mounier. Et donc, ces ingrédients vont être mis au service de la clandestinité.
Jean Gosset ?
Jean Gosset, qui a été son agrégatif et qui sera son adjoint dans le réseau Corse, lui est proche d'Emmanuel Mounier et de la revue Esprit.
Donc déjà, chez lui, le refus de se laisser embrigader dans un parti, en dépit de ces amitiés socialisantes que vous évoquez il y a un instant. Et c'est un observateur passionné de ce qui se passe en Allemagne. Il lit Mein Kampf. Dans une lettre, il écrit ceci de Hitler, qu'il a été écouté. Tête de professeur de gymnastique, mâchoire et pas de regard. Débit assez vigoureux, un certain talent de mime à propos des intrigues entre partis de gauche et de droite qui s'entendent en coulisses pour leurs intérêts et évidemment de la force quand son poing martèle son désir de sauver la patrie allemande. C'est en mars 31 que ce regard est posé sur le futur dictateur.
C'est exactement ce que dit d'Hitler le philosophe Max Picard, qui dit « c'est l'homme du néant ». Et c'est un texte qui est publié après la guerre. Oui, bien sûr. Mais alors, que voit-il en Hitler? Il voit un pantin qui gesticule et qui n'est certainement pas le cadeau à faire au patriotisme allemand.
Il faut maintenant que nous précisions le rôle de la guerre. Comment il y participe d'abord comme officier, tout naturellement? Comment il est fait prisonnier? Comment il s'échappe?
Alors, il est réserviste hein, et puis il va être nommé dans l'infanterie coloniale.
Il va se battre déjà pendant la drôle de guerre.
Pendant ce qu'on appelle la drôle de guerre, oui, il y a quand même des combats. En tous les cas, il a deux citations. Il est fait prisonnier en juin 40 comme presque 2 millions de soldats français. Et avant d'être transféré du camp de prisonniers qui est dans le nord, à la frontière belge, avant le transfert en Allemagne, il réussit à s'évader. Il va d'ailleurs rendre hommage ensuite à ceux qui l'ont caché, notamment des bonnes sœurs dans un couvent, tout un périple.
Et tout un symbole.
Et il rentre, il revient en France, se fait démobiliser. Et là, il est en zone sud, parce que l'université Strasbourg s'est repliée à Clermont-Ferrand. Et là, il commence tout de suite la résistance dans un mouvement qui devient Libération Sud, mais où il y a Lucie Aubrac, Emmanuel d'Astier. Enfin, voilà, c'est la dernière colonne. Mais ça veut dire qu'il commence quand même, contrairement à ce que dit Canguilhem, par des tracts, des papillons, de la presse clandestine, parce que la résistance, ça commence comme ça. Et on ne saute pas tout de suite sur les explosifs. C'est vraiment le temps et pas le même.
Il y a trois étapes, en somme, vous le montrez bien dans vos travaux sur la résistance. Il y a d'abord un effet de communication, un effet de propagande contre le régime. Ensuite, il y a un travail de renseignement au profit de ceux qui vont se battre. Et finalement, il y a l'entrée dans l'action elle-même. On voit très très bien ces trois moments dans ce que vous nous dites de Jean Cavaillès en résistance.
C'est un peu à l'examiner lui que j'ai compris que chaque temps avait sa forme de résistance. Cohérente avec ce qui se passe dans la guerre mondiale. Et donc, il commence bien par des tracts et par de la presse clandestine. Il va rejoindre les syndicalistes de Libération Nord en zone Nord, va s'occuper pendant un certain temps du journal clandestin Libération Nord avec son ami Jean Texier, qui est son ami pas de l'école normale supérieure, mais qui est son ami et qui va sans doute être le lien entre Cavaillès et les syndicalistes de Libération Nord. Ce mouvement est syndicaliste, chrétien et socialisant. Donc, politiquement, il y a une forme de cohérence. Et même si on ne peut pas le mettre dans une case partisane politique, il est quand même avec des personnalités qui sont dans la même sensibilité politique que lui.
Alors vous qui avez travaillé d'abord sur Libération Nord, peut-être faut-il nous expliquer comment on peut, à l'époque, publier un journal sans se faire pincer par l'occupant.
Le premier journal clandestin, c'est Christian Pinault qui le fait tout seul.
Christian Pinault, que nous allons retrouver à plusieurs reprises, le futur ministre des Affaires étrangères de Guy Mollet en 1956,
exactement,
socialiste.
Exactement, et le ministre du Ravitaillement aussi à la Libération. Donc Christian Pinault a entendu parler de Cavaillès, il est fasciné par Cavaillès, et il dit tout de suite, on doit travailler avec lui. Mais au départ, la presse clandestine, en fait, c'est une feuille de chou, recto verso.
Imprimée chez...
Ben, pas imprimée, au départ, c'est René Otipé.
Ah oui, mais assez vite...
Alors, Pinault fait des petits éditoriaux, on dirait, aujourd'hui. Il signe jamais du même nom, donc il fait croire qu'ils sont très nombreux. Mais au départ, c'est 7 exemplaires qu'il va cacher dans sa cave, dans des bouteilles. Enfin, d'ailleurs, Pinault, dans ses mémoires, dit, mais quelle immodestie, quelle folie, que pouvait faire une plume contre les chars, les tanks donc c'est vrai que dans la résistance, il y a un pari un peu fou qui consiste à agir avec si peu de moyens que finalement, on se demande s'ils sont vraiment réalistes. Enfin, le côté rapport au réel est complètement incroyable.
Il théorise la notion de témoignage, ce qui se dit aussi martyr. Je pense à l'autre. Celui qui a lancé un des premiers journaux, Pantagruel,
oui.
Et qui a fini sous la hache des bourreaux en Allemagne.
Oui, mais Pantagruel dit une chose dès l'automne 40, qui est d'ailleurs une définition de la résistance, c'est penser par nous-mêmes. Donc c'est à ça que répond cette presse clandestine, donc qui n'est pas du tout, je dirais d'abord, une activité sans danger, et qui joue son rôle. Quand Cavaillès change de registre, il rejoint un autre temps de la guerre. Il fait Libération Nord, ce journal clandestin, pendant assez longtemps, avec Jean Texier. Et à un moment donné, il trouve que l'action doit devenir plus offensive parce que voilà, le déroulement de la guerre libère des énergies auxquelles il veut se joindre. Donc il va participer à l'entreprise Libération Nord, qui est ce journal clandestin syndicaliste et chrétien de zone Nord.
Première phase.
Et ensuite, c'est après le retour à Londres de Christian Pinault que Christian Pinault va lui confier la tâche de créer un réseau de renseignements. Au départ, ce sont des renseignements politiques et économiques sur la zone Nord. Et c'est au départ, je dirais, la moitié du réseau de Christian Pinault. Donc c'est Phalanx. Le réseau Phalanx est créé à la demande du BCRA. À Christian Pinault.
Le BCRA, c'est l'organisation qui, à Londres, organise les rapports avec la résistance.
Le Bureau central de renseignement et d'action, qui est, enfin, c'est un peu les services secrets gaullistes, dirigés par le colonel Passy, jeune polytechnicien. Et Christian Pinault, qui va à Londres au printemps 1942, revient avec cette mission qui est de créer un réseau de renseignement politique économique en zone nord et en zone sud, qui s'appellera Phalanx. Il confie à Jean Cavaillès le réseau Phalanx, zone nord.
Qui va évoluer en Corse.
Qui deviendra Corse. Et Pinault, qui est recherché, va s'occuper de Phalanx, zone sud. Mais au départ, c'est le même réseau.
Donc passage de la phase renseignement à la phase action directe.
Exactement. Qui, pour Cavaillès, va commencer début 43.
Je vous arrête un instant, Alia Aglan, pour vous faire entendre le témoignage de Raymond Aron, qui était à Londres et qui a eu l'occasion d'y lier amitié avec Cavaillès au moment où celui-ci est allé en Grande-Bretagne. Écoutons-le, c'est un témoignage de 1969.
Inconditionnellement fidèle à la résistance, donc à la discipline qu'elle exigeait, inconditionnellement hostile aux compromissions ou à la collaboration, Jean Cavaillès voulait demeurer en dehors des controverses proprement politiques. Nul parti n'a le droit de se réclamer de lui, sinon le parti de la France et de l'honneur, qui à ses yeux n'excluait personne, de l'extrême gauche communiste à l'extrême droite nationaliste. L'obligation morale du combat et la rationalité mathématique, si distinctes fussent-elles, s'ordonnaient en un même univers, une sorte d'univers spinoziste de la nécessité, où l'esprit se retrouvait chez lui parce qu'il l'avait édifié en le démontrant. La mise au jour de cet univers représentait en même temps une création. Dois-je aller plus loin? Cette double nécessité scientifique et morale relevait-elle d'une croyance qui en fondait l'unité? Je ne sais et je me refuse à répondre.
J'emprunte cette archive à l'émission Hommage à Jean Cavaillès de Pierre Lhôte, qui avait été diffusée le 25 octobre 1969. À Lyon-Aglan, nous voilà devant la grande question des relations entre la pensée et l'action, sous-titre de votre ouvrage.
Je pense que chez Cavaillès, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se déroule dans le même mouvement. Et il est vrai que parce qu'il est logicien et parce qu'il est philosophe, on a pu vouloir mettre sur son action cette formule très belle de « il est résistant par logique ». Mais je dirais que la notion de nécessité, elle pourrait s'appliquer aux autres résistants parce que...
Spinoza.
On l'emprunte à Spinoza, mais en réalité, même si on n'est pas philosophe et pas spinoziste, il a déclaré à Londres, justement, dans une conversation avec Aron, « je suis spinoziste ». Et il a cette notion de Spinoza, il y a la nécessité et puis la liberté. Mais ce qui est intéressant dans l'action de Cavaillès, c'est que c'est une continuité avec son travail de philosophe, avec ses engagements politiques et sociaux d'avant la guerre, et un rapport à la contingence qui fait que cette contingence n'est pas un fait établi, mais qu'on peut, par l'action, transformer la contingence en mouvement vers la liberté.
Sa majesté le hasard, disait Voltaire, comment la surmonter. Il aimait dire, nous rapporte ses proches, c'est logique, très souvent dans son propos. Alors ça, c'est la notion de logique et en même temps la liberté.
Bien sûr, mais c'est deux logiques qui vont ensemble.
Raymond Aron demande si on peut trouver l'unité et ne s'y aventure pas. Mais vous la trouvez en fait.
On voit bien la logique, mais c'est un peu facile de dire après coup, c'était logique.
Ça, c'est notre confort d'historien.
Voilà, mais ce que l'on peut dire après coup, c'est qu'il y a une très grande cohérence entre ses engagements, sa vie, son action, et puis d'une certaine manière, sa persistance. Parce qu'il aurait pu, dans le milieu clandestin, trouver, je dirais pas, des endroits moins exposés. Mais lui, il est allé au-devant, parce que la résistance devait être un combat offensif. C'est là que c'est un activiste de l'urgence, et le temps court, le temps se raccourcit. Et dans ses échanges avec Londres, on voit très bien qu'il n'a pas tout son temps.
On le voit fonder dès lors un autre, après Phalanx, un autre réseau qui s'appelle Cohorse, et qui va incarner ce moment ultime de son action.
Alors Cohorse, c'est la séparation de Phalanx, parce que justement, avec Pinault, ils ont un différent très particulier. Pinault est un politique, comme les syndicalistes d'ailleurs, parce que l'action syndicale, c'est de préserver le syndicat, et surtout son indépendance, pour l'après-guerre et pour la société à venir. Chez Cavaillès, c'est tout à fait l'inverse. Il sait très bien ce que sera son avenir, il retournera enseigner à la Sorbonne s'il survit, mais pour lui, le combat est immédiat. Et il se trouve que son choix va très bien avec les choix faits par la France libre et le BCRA, qui est de dire, voilà, on va passer à l'action offensive, d'abord parce qu'on ne va pas laisser aux seuls communistes l'activisme. Il faut se mettre dans des actions de sabotage. Alors, Londres dit, il ne faut pas abattre de soldats allemands.
Ah, c'est De Gaulle qui le dit, voilà, clairement, dans un fameux discours. Une injonction à propos fameux de De Gaulle, disant qu'il ne faut pas tuer l'occupant, même s'il le mériterait de certaine façon. C'est après le moment où, dans le métro, le colonel Fabien, communiste, a tué un officier allemand.
Oui, un aspirant.
Il n'était pas officier, il n'était qu'aspirant. Voilà qui sera clair.
En tous les cas, l'action immédiate, c'est la directive donnée dès la fin 1942, en réalité, avec la mise sur pied de l'armée secrète. Et On demande à tous les mouvements de résistance d'activer l'organisation paramilitaire. C'est le sens de la mission Arquebus-Brumaire avec Passy et Brossolette. Et donc Cavaillès, d'une certaine manière, non seulement répond à la demande de Londres, mais comprend que les actions de libération, c'est la résistance qui doit les mener. Et surtout, ils attendent la libération en 43, après l'opération Torch en Afrique du Nord. Donc il y a un temps de la guerre qui correspond aux consignes de Londres, et que les syndicalistes de Libération Nord n'ont pas spécialement envie d'appliquer parce qu'ils sont dans un temps moyen. C'est-à-dire que le syndicat doit être préservé, attend le jour J, attend les consignes pour reconstruire la société d'après le jour J.
Avec le recul, ce choix que fait Cavaillès est très éclairant. Faut-il penser à la suite, d'abord ? Et on attend de Gaulle qui commence à en parler, de fait, de la démocratie, mais ou bien faut-il se concentrer entièrement sur le combat, en acceptant d'ailleurs des collaborations d'acteurs qui viennent de tous les bords politiques?
Mais Jean Cavaillès n'est pas gaulliste dans le sens où il n'est pas du tout politique. Il dit « il faut gagner la liberté avant d'aménager la liberté ». Or, évidemment, un chef comme De Gaulle doit absolument dire ce que sera l'épuration, ce que sera la libération, ce que sera la société. Il doit se rallier clairement à la République pour que les chefs des mouvements le choisissent comme symbole et comme autorité. Donc, c'est vraiment pas les débats. Et Cavaillès refuse justement un débat qu'il juge stérile, par rapport justement aux actions que les syndicalistes entendent mener. Et c'est pour ça qu'ils s'en séparent à un moment donné.
D'ailleurs, il apporte, quand il vient à Londres, au général de Gaulle, une statuette du sculpteur Hiché, qui incarne la France enchaînée. Il est notable que cette statuette est encore à la boisserie, dans la demeure, dans le bureau du général de Gaulle.
Oui, c'est assez émouvant de la trouver à la boisserie. Alors moi, j'ai visité la boisserie il n'y a pas très longtemps et j'ai immédiatement reconnu cette statuette dont j'avais beaucoup entendu parler dans les archives. Oui, c'est vraiment un symbole très fort que Cavaillès est chargé d'apporter au général de Gaulle. Mais je ne dirais pas qu'il est gaulliste dans le sens où il a un choix qui est l'action immédiate. Et donc, au sein de Corse, qui va se séparer de Phalanx, il va créer les GRAC, c'est-à-dire ces groupes d'action, ou avec Jean Gosset d'ailleurs.
Aucun rapport avec les GRAC de l'Antiquité, ça c'est les GRAC.
Oui, c'est ça, c'est les groupes d'action au sein de Corse, mais c'est des groupes d'action extrêmement réduits, et lui-même participe évidemment à tous les sabotages. Il va entrer dans la base de Saint-Nazaire pour poser du plastique. Et dans ses relations avec Londres, le courrier, il demande toujours plus de Chatterton, toujours plus d'explosifs. Donc voilà, il est dans cet activisme.
C'est vraiment le philosophe bourré d'explosifs ou...
L'agrégé du sabotage, oui. C'est une formule qui s'applique très bien à lui.
Il est notable que De Gaulle, d'ailleurs, ne parle que rarement ou que peu dans ses mémoires de guerre de Cavaillès, même si, en somme, tel que vous le montrez, il est dans la ligne de ce que souhaitait Londres à ce moment-là. Tout de même, il faut citer ce passage de l'Unité, troisième tome des mémoires de guerre. Cavaillès, que sa nature portait à la prudence, mais que sa haine de l'oppression poussait au plus fort de l'audace, jusqu'à ce qu'il souffrît pour la France la torture et la mort. Bel hommage tout de même.
Oui, bel hommage. Et
un peu court.
Il ne parle pas non plus de tous les résistants, mais De Gaulle le fait activement rechercher, Cavaillès. Toute l'année 44, on ne sait pas où il est. On pense qu'il est déporté en Allemagne. On ne sait pas si c'est à Mauthausen. Mais quand je suis allée dans les archives de la Croix-Rouge il y a quelques années, j'ai trouvé une fiche où l'officier d'ordonnance de Gaulle cherche des renseignements sur Cavaillès. Je pense que ceux qui ont croisé Cavaillès pendant l'occupation, je crois que personne ne l'a oublié, parce que tous les mémoires fourmillent d'hommages. Donc là, De Gaulle fait quelques lignes, mais on trouve d'autres hommages un peu partout.
Et en particulier de la part de ses étudiants, parce que cet activiste continue d'enseigner. Il est remonté de Strasbourg, Clermont-Ferrand, l'université de Strasbourg à Clermont-Ferrand, vers la Sorbonne en 1938. Et c'est là qu'il enseigne. Et c'est là que Suzanne Bachelard, professeure de philosophie à l'université, ensuite la fille du grand Gaston Bachelard, est son étudiante. Elle le raconte de la sorte, toujours dans les témoignages de 1969.
Mademoiselle Bachelard, quel est votre plus ancien souvenir de Jean Cavaillès ?
Un souvenir lointain. Qui d'entre nous qui suivions pendant l'année 1942 son cours de logique, ne se souviendra de lui. Effaçant rapidement le tableau, au moment où nous commencions tout juste à comprendre, et se retournant vers nous avec un léger sourire malicieux. Non, ce n'était pas l'assurance et le dogmatisme que nous avions devant nous. C'était, inoubliable, le questionnement qui, à travers le doute de soi, revenait en arrière, mais allait toujours plus loin. C'était une recherche des enchaînements nécessaires, comme nous les révèlent les mathématiques, la philosophie, une certaine philosophie du moins, comme celle de Spinoza par exemple. C'était aussi la découverte étonnée de l'imprévisible dans le devenir même de la pensée nécessaire.
On retrouve là, me semble-t-il, dans ce témoignage à la fois le personnage d'enseignant avec cette distance, cet humour, et aussi le fond de ce qu'il dit à ses disciples, à ses étudiants. Il se situe bien dans la ligne de ce que vous venez de nous résumer, Alia Aglan.
Il embarque Jean Gosset dans la résistance, puisque ça sera le numéro 2 de Corse. Et ensuite, quand Jean Cavaillès est arrêté, c'est Jean Gosset qui va reprendre Corse, qui est devenu Corse-Asturie, vous savez, puisque quand un réseau tombe, il change de nom, enfin, après une mise en sommeil de 2 mois.
Oui, Asturie, c'est un hommage à la guerre d'Espagne ou bien...
C'est pas les noms.
Il faut aller plus loin en arrière.
Les noms des réseaux sont choisis de manière... Il y a manipule. Je pense que c'est une inspiration plutôt empire romain.
C'est pourtant un sujet qui n'est pas indifférent.
Non, pas du tout, mais on ne sait pas exactement comment sont choisis ces noms. Mais pour en revenir à Cavaillès, c'est vrai qu'il enseigne toute l'année 42, mais à partir de septembre, il est arrêté. Il est arrêté par les Français sur une plage de Narbonne où il doit rejoindre Londres par opération maritime. Il est avec Christian Pinault. Ils sont arrêtés et puis Christian Pinault le prend d'un peu haut. Il dit « Monsieur le professeur à la Sorbonne » et puis « Nous rejoignons Londres », etc. Bon, ils sont mis en prison immédiatement.
Deuxième évasion,
mais un peu plus tard. Mais c'est surtout qu'à partir de fin 42, Cavaillès est un paria, parce qu'il est révoqué, il est condamné à faire 5 ans de prison, il est privé de ses droits civiques, ça c'est quelque chose qu'on dit pas, mais en 43, il est forcément profondément clandestin, parce qu'il est un paria, enfin, comme beaucoup de gaullistes. Hein, d'ailleurs, on ne lui a pas enlevé la citoyenneté française, mais quand même, il perd la plupart de ses droits civils.
Il plonge dans le mystère, dans la clandestinité, alors qu'auparavant, il avait cette double apparence du professeur honorable à la Sorbonne et de celui qui était le philosophe bourré d'explosifs.
Exactement. Il devient vraiment le philosophe bourré d'explosifs à partir du moment où... Alors, quand il est interné par les Français, il a quand même la possibilité de lire, de travailler. L'autre main lui apporte des livres. C'est pas la même prison, en fait, qu'à la fin de l'année 43.
Montpellier, de Montpellier.
C'est à Montpellier.
Premier temps.
Voilà.
Mais ensuite, alors, à Paris, le drame arrive progressivement et le...
Le drame arrive après un séjour à Londres qui fait en 43, où Londres aimerait bien qu'il reprenne la tête du mouvement Libération Nord pour l'orienter justement vers une activité paramilitaire, pour participer en fait à la construction de l'armée secrète, qui a un peu de retard en zone nord par rapport à la zone sud. Et bien sûr, on voit bien que les mailles du filet se resserrent et le réseau est infiltré par plusieurs services de police. Ça, c'est le...
L'ABVER,
surtout le service 3F de l'ABVER, le service Léopold.
Dans un deuxième temps.
Que Benoît Verny a très bien étudié.
Dans votre livre, oui.
Et qui est un service qui est spécialisé dans l'infiltration des réseaux. Et pour infiltrer un réseau, quoi de mieux que de mimer un faux réseau? Et donc les Allemands miment des réseaux, c'est-à-dire qu'ils donnent des moyens à un agent qu'ils ont repéré pour une affaire de marché noir. Ils lui mettent le marché en main. Enfin,
il le retourne, c'est le nommé Michel.
Exactement.
En l'occurrence.
Le Michel, dont on a le vrai nom, puisqu'il a été jugé après la guerre.
Nous en priverons les auditeurs.
Voilà, Michel, c'est un pseudonyme, va travailler pour les Allemands et, je dirais, mener les Allemands à la tête du réseau. Parce qu'en fait, ça ne les intéresse pas de ramasser des agents de liaison, du menu fretin. Eux, ils veulent la tête du réseau. Et surtout, ce qui est visé, c'est les radios. Parce que retourner un radio, c'est faire du Funkspiel, c'est-à-dire intoxiquer Londres avec donc des faux renseignements. Donc c'est dans toutes ces affaires où finalement Cohorse et enfin la tête de Cohorse est infiltrée et il y a plusieurs filatures de plusieurs services allemands qui d'ailleurs de temps en temps se tirent dans les pattes et qui va aboutir à l'arrestation de Cavaillès et de sa sœur, de sa belle-sœur et d'autres membres du réseau Corse.
Gabrielle Ferrière, cette musicienne Gabriel dont il était Ferrière. Si proche. Et son arrestation survient le 28 août 1943, boulevard Saint-Michel, à proximité de la station de Port-Royal. Il était assez imprudent, nous dites-vous, parce qu'il donnait régulièrement ses rendez-vous au même endroit dans le petit Luxembourg, près de l'avenue de l'Observatoire. C'est d'ailleurs à proximité qu'il est arrêté, et c'est là que sa sœur a évoqué à l'occasion la cérémonie où on appose une plaque au 34 de l'avenue de l'Observatoire en 1964, que Gabriel Ferrière évoque ainsi son frère, Interactualité, 21 mars 1964.
Mon frère habitait cet immeuble au moment de son arrestation. Il a été suivi alors qu'il sortait de sa maison et rattrapé dans le petit Luxembourg. À ce moment même, nous venions sonner à sa porte. Son appartement était organisé en souricière et nous avons fait accueillir par un Allemand, revolver à la main. Nous avons été arrêtés naturellement et nous l'avons retrouvé à l'hôtel Quéret. C'est un souvenir, je me souviendrai de cette nuit où il a été torturé dans une pièce au-dessus de ma tête pendant toute la nuit. Et puis notre départ dans la même voiture pour Fresnes au petit matin.
Alors, imprudence ou pas, Alia Aglan?
Alors imprudence, certainement pas, parce que en réalité, les agents de renseignement sont épuisés. C'est épuisant la résistance. Hein. La durée de vie d'un radio, c'est 3 mois. Et c'est un travail harassant parce que d'abord c'est du non-stop, il faut tout le temps changer de domicile et la résistance ayant peu de moyens, ils ne sont pas assez nombreux et le cloisonnement qui est demandé par Londres, notamment entre renseignements et sabotage, ils font tout et c'est pour ça aussi qu'ils sont fragiles et infiltrables puisque que font les Allemands quand ils attrapent Michel ? Ben, il lui rend des services, c'est-à-dire qu'il va aller au rendez-vous en voiture, il va avoir des moyens que la résistance ne lui donne pas.
Et ça ne met pas la puce à l'oreille des résistants de le voir tout à coup favorisé de la sorte?
Alors, les Allemands sont assez intelligents, ils arrêtent tous ceux qui soupçonnent Michel d'être un traître. Parce que dans la résistance, les traîtres n'ont pas une durée de vie non plus très longue, puisque voilà, on les liquide.
On le voit très bien dans le film fameux de Melville, L'Armée des Ombres.
Qui commence par la scène où on exécute le traître, justement, Duna. Et qui a ce grain de beauté qui rend l'exécution insupportable. On a, avec Cavaillès, une sorte à la fois d'exaltation activiste de la résistance qui fait que les consignes de sécurité qui sont quand même prônés par Londres, c'est-à-dire des gens qui ne vivent pas dans les conditions de la clandestinité, et puis une boulimie de travail, une boulimie d'action. Il sait qu'il est traqué, il sait qu'il est recherché. On lui propose d'ailleurs de rester à Londres pour s'occuper des nominations de ceux qui seront en poste à la Libération, il refuse. Mais par contre, il a la prudence d'envoyer Claire Lejeune, qui est sa secrétaire dans le réseau et son amie. Il l'exfiltre à peu près une semaine avant d'être lui-même arrêté. Donc, il sait qu'il est en danger, et pourtant, il ne se met pas au vert, comme dans le jargon de la résistance, quand on sait qu'on est traqué, on se met au vert, c'est-à-dire qu'on coupe tout pendant 2 mois. Et bien sûr, il ne sait pas comment il est traqué, mais il est traqué. Et donc, il est traqué, oui, par plusieurs services. De toute façon, il fait partie des personnalités que les Allemands ont ciblé par des arrestations. Son nom est encore sur une liste de gens qu'il faudrait arrêter parce que les Allemands arrêtent par centaines, par milliers presque, tous ceux qui sont susceptibles de passer à la dissidence gaulliste au printemps 44. Il est encore sur la liste des gens à arrêter, bon, sauf qu'il est déjà arrêté.
Il est emprisonné à Fresnes où Yves Gros-Richard, qui est un journaliste et un autre résistant, il a été un
de Cohorse,
reconnu après la guerre, où Yves Gros-Richard l'a rencontré. Et il le rappelle de la façon que voici. C'est toujours un témoignage de 1969 dans l'émission de Pierre Lhôte.
Je pense avoir été l'un des derniers à rencontrer Jean Cavaillès vivant dans la prison de Fresnes. J'ai été arrêté vers le 15 décembre 1943, interrogé environ 8 jours après. On m'a fait sortir de ma cellule. On m'a fait descendre dans un des préaux de la prison de Fresnes. Et là, j'ai vu aligner 25 à 30 personnes, des hommes et des femmes, que je ne connaissais pas, mais parmi lesquels il y avait quelqu'un que je connaissais, c'était Jean Cavaillès. Il avait, je me rappelle très bien, le visage très amaigri, ses yeux brillants qui étaient inoubliables, et puis ses pommettes très roses, très rouges, qu'on a toujours, vous savez, Victor Hugo l'a dit, hein, l'homme qui se lève avant l'aube et qui n'a pas dormi, c'était exactement le cas. On nous avait mis en file et pour nous emmener à l'interrogatoire, on nous a fait passer par une sorte de souricière qui doit exister encore d'ailleurs et qui fait qu'on est rassemblé dans un vaste préau mais qu'on ne peut pas se sauver si vous voulez car pour accéder à la sortie, il faut descendre par cet escalier en boyau et puis emprunter un couloir souterrain. On nous a donc fait descendre par là et ce couloir était mal éclairé et assez sale, assez poussiéreux. Et à ce moment-là, nous nous sommes arrangés, sans rien dire, pour marcher de telle sorte que Cavaillès, étant situé en tête, nous puissions tous, peu à peu, arriver à sa hauteur, échanger un ou deux mots en baissant la tête avec lui et laisser la place au suivant. J'ai donc pu, à mon tour, échanger 2 ou 3 mots avec Cavaillès. Les uns, ça a été pour lui dire... Je suis venu à la Sorbonne vous demander de me procurer des leçons. Et l'autre phrase, ça a été à peu près ceci. Qu'est-ce que je peux dire pour vous? Et il m'a répondu, rien, ils savent tout.
Fresnes et la Sorbonne, les deux décors, Alia Aglan.
Oui, ceux qui l'ont rencontré à Fresnes ont témoigné... du fait qu'il avait tout pris sur lui. C'est ça la phrase « ils savent tout ». C'est-à-dire qu'il a pris toutes les responsabilités, il s'est arrangé pour que son arrestation ne donne pas suite à des séries d'arrestations. Donc tout le réseau n'est pas tombé.
Il n'a pas parlé. C'est ce qu'évoque Malraux dans son fameux discours pour Jean Moulin de 64. Ceux qui ont résisté et ceux qui, pire encore peut-être, ont parlé.
C'est-à-dire ne pas parler, c'est impossible. Il faut parler, mais
il faut rien dire. Il parle que de lui-même, voilà. C'est ça. Parler pour ne rien dire.
Voilà, pour dire que c'est lui qui est... Alors, il semblerait qu'il ait fait croire aux Allemands qu'il était possible, qu'il travaille pour eux, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est envoyé à Compiègne, après donc quelques mois à Fresnes. Il est envoyé à Compiègne, et de Compiègne, il est inscrit sur un convoi pour être déporté à Buchenwald, qui est un peu le chemin de la déportation résistante classique, je dirais.
Mais
la veille, en fait, de son départ, on vient le chercher pour complément d'instruction, et là, il disparaît. Et pour les historiens aussi, il a disparu pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que Laurent Théry, qui travaille sur la répression dans le Nord-Pas-de-Calais, l'identifie avec les autres résistants qui sont enterrés dans la même fosse commune, et qui est d'ailleurs, qui a eu du mal à être retrouvé, hein, puisque son corps n'est identifié par sa sœur qu'en 1945.
Grâce à des photographies gardées sur son corps.
Oui, dans son portefeuille. Et donc, c'est une douzaine de résistants qui sont tous amenés à Arras, où siège un tribunal spécial qui est chargé de protéger les emplacements des rampes de V1, donc les fameuses armes secrètes dont les nazis étaient persuadés qu'elles serviraient à gagner la guerre, enfin en tous les cas à inverser le sort des armes. Et donc c'est dans ces activités très offensives qu'il est pris. On en avait l'intuition, mais on n'avait ni la date exacte de l'exécution, ni le contexte. Et donc et Laurent Théry va complètement, dans un chapitre inédit, reconstituer par un raisonnement qui est très pertinent les raisons pour lesquelles il est non seulement exécuté et pas enterré. Enfin, c'est-à-dire ça c'est la mort infamante que réservent les Allemands aux saboteurs.
Il est la victime paradoxale du ver, en somme, c'est ce que nous démontre cet auteur.
Oui, mais il est aussi victime de sa multiplicité d'activités. Vous savez, il a au moins une bonne dizaine de pseudonymes. Et vous savez qu'à chaque type d'action, il y a un pseudonyme, et ce n'est pas toujours dans les mêmes régions. Donc, en tous les cas, il est envoyé à Arras, donc on voit à peu près, il passe par l'hôtel du commerce, la caserne Schramm, et bon, donc voilà, son exécution est éclaircie, si j'ose dire, aujourd'hui.
Et son exécution a lieu dans les fossés de la citadelle d'Arras, le 5 avril 1944. Il nous faut, Alia Aglan, conclure cette émission consacrée à Jean Cavaillès, le résistant, le philosophe, le mathématicien, la victime des nazis, en évoquant la postérité. J'en parlais en commençant, on ne peut qu'être sensible à une différence de notoriété avec Jean Moulin ou avec Pierre Brossolette, qui tous les deux ont été successivement portés au Panthéon, dans des conditions que nous savons. Comment peut-on expliquer cette différence, d'une certaine façon, cette injustice de la mémoire, en suivant les traces de Jean-Pierre Azéma, qui en traite dans votre livre?
Oui, il a travaillé sur les papiers de la Société des Amis de Jean Cavaillès, d'ailleurs, que je remercie, et il a trouvé une formule assez belle pour dire que la mémoire de Cavaillès, c'est pas qu'elle est inexistante, c'est qu'elle est confinée. C'est-à-dire que c'est une mémoire élitiste.
Il n'y a aucun lycée, par exemple, qui porte le nom de Jean Cavaillès, bon. Alors qu'ils sont très nombreux, les lycées, les écoles, à s'appeler Jean Moulin ou Brossolette.
Mais parce que, je crois que c'est Raymond Aron qui le dit dans l'extrait qu'on a diffusé, il n'appartient à aucun parti. Donc aucun parti ne peut...
Porter sa mémoire,
bien que, quand même, il a une mémoire qui existe, au moins dans les locaux de l'École normale supérieure, qui a quand même...
Et une salle Cavaillès, c'est vrai, il y en a une aussi à la Sorbonne.
Oui, mais c'est une mémoire, je dirais, élitiste.
Est-ce qu'il y a un timbre-poste?
Oui, il y a un timbre-poste. Mais au-delà de cette raison, je pense qu'il n'incarnait pas dans la Résistance un groupe. Alors ça revient un peu à ce que dit Jean-Pierre Azéma, mais... Il n'est pas porteur d'une mémoire collective à cause de cet itinéraire de repli dont je vous ai parlé.
Et de son choix fondamental. Et
de son choix de se consacrer à un groupe d'action, où ils étaient quand même pas très nombreux.
En refusant de se porter précisément dans l'avenir.
Je pense que c'est son refus de faire de la politique comme certains mouvements de résistance faisaient de la politique, c'est-à-dire se projeter dans l'avenir. Je pense que c'est la raison fondamentale. Mais il est quand même enterré dans la crypte de la Sorbonne, où on lui rend hommage assez régulièrement, avec les lycéens de Buffon. Donc on a quand même honoré sa mémoire en 1947, puisque cette crypte de la Sorbonne a été inaugurée par Vincent Auriol, et qu'il a fait partie de ceux qui représentent la résistance.
Auriol, qui était président de la République, oui.
Exactement. Et il représente quand même, dans cette crypte où ils ne sont pas si nombreux, quelque chose de l'honneur de l'université.
On peut aller les saluer. Merci beaucoup. Merci, Alia Aglan, d'avoir fait ressurgir cette personnalité, à vrai dire lumineuse, que fut Jean Cavaillès. D'en montrer la complexité, la richesse... Les origines et le destin posthume. Merci beaucoup. Votre livre sur lequel j'ai fait fond, le livre collectif que vous avez dirigé avec Jean-Pierre Azéma, s'appelle Jean Cavaillès, résistant, je le rappelle, La pensée en acte. C'était une publication de 2002 que vous avez réédité précieusement chez Albin Michel dans la collection Espace Libre. Je souhaite aussi saluer avec le respect qu'il appelle l'opus magnum que vous avez rédigé avec Robert Franck, que vous avez organisé et dirigé avec Robert Franck et qui est très très précieux dans la collection Folio, qui s'appelle 1937-1947, La guerre monde, en deux volumes. Pourquoi ces deux dates un peu surprenantes, 37 et 47?
Parce qu'on a fait le choix de travailler sur les aspects mondiaux de la Seconde Guerre mondiale. En élargissant la focale spatiale, on a été obligé d'élargir... la séquence chronologique, parce que 37, c'est déjà la guerre en Asie, la fondation du Manchukuo, et 47, c'est les traités de Paris, en fait, qui sont censés mettre fin, alors c'est le début de la guerre froide aussi, mais dès que le regard s'ouvre de les espaces, on est obligé de prendre cette décennie d'une guerre qui n'est pas tout à fait terminée.
Nous pouvons, dans les mémoires, le noter, je ne veux pas inquiéter ou... éloigner nos auditrices, nos auditeurs du désir de voir. Mais enfin, c'est tout de même 2500 pages.
Et 45 auteurs.
Nous avons aussi le plaisir de pouvoir lire avec un sourire cette fois, on en a besoin. L'ouvrage que vous avez publié toujours chez Gallimard, Folio Histoire. Vous aimez bien publier en livre de poche d'abord.
Mais oui, c'est un choix, parce que c'est pas cher et les étudiants peuvent y accéder.
Ce livre s'appelle Le rire ou la vie. C'est une anthologie de l'humour résistant. Il est paru peu de temps après que nous ayons ici même consacré une émission à Pierre Dac, qu'on retrouve naturellement en ligne, qui est exactement dans la suite de ce que vous nous dites. Que rassemblez-vous, Alia Aglan ?
Alors, c'est des textes, des chansons, des parodies et même des caricatures qui ont été publiées dans la clandestinité ou dans les journaux de la France libre. Le propos est de dire que l'humour est une arme de guerre.
On en est persuadé à vous lire. Vous avez publié également, je pourrais citer beaucoup d'autres ouvrages, mais on les trouvera comme d'ordinaire sur notre site en ligne. Vous avez également publié Le temps de la résistance. C'était un essai chez Actes Sud 2008, un livre qui avait été fort remarqué.
C'est un livre où je prends sous forme de synthèse les rapports au temps des résistants, et Cavaillès y figure en bonne place parce que c'est un peu son exemple qui m'a guidée vers ce thème de la perception du temps et du rapport à l'action, les temporalités de l'action.
Nous avons donné à entendre Georges Canguilhem, qui a été président de la Société des Amis de Cavaillès, et ses écrits, ses hommages divers à Cavaillès sont réunis de façon très bienvenue par les éditions Alia, mais ça s'écrit A2LIA, pas de rapport.
Non, aucun rapport avec moi.
Alors que votre nom s'écrit ALYA. Et c'est un fascicule très précieux qui est paru en 2018 et qui réunit ces hommages divers. Voilà, beaucoup d'autres choses en ligne que vous pourrez aisément consulter. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, avec également les références des documents sonores que nous avons utilisés.
Les amants étaient chez moi. Me dire signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a caché, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Eh bien, tandis que nous vous donnons à entendre l'illustrissime complainte du Partisan, une chanson de 1943, interprétée ici par Leonard Cohen en 1969. Tandis que vous pouvez l'entendre, je vous rappelle que vous venez d'écouter Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec à la prise de son Adrien Gaza, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Delphine André pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel.
And we'll come from the shadow.